Chapitre 3. Après que la déferlante de feu eut carbonisé ses hommes par milliers, le général Outreau sonda le champ de bataille dévasté. Des jours durant, l'odeur de l'herbe et de la chair brûlée flotterait dans l'air, et le goût âcre de la mort resterait longtemps au fond de sa gorge. Perdre tant de loyaux soldats en si peu de temps, c'était comme recevoir dans le cœur une lame chauffée au rouge. La magie de transfert d'Elsa s'était révélée plus puissante qu'il l'aurait cru. Bien trop tard, Ava et Ruva avaient compris que leurs ennemis dessinaient dans le sol des runes destinées à protéger un pouvoir dévastateur. Trop tard aussi, Outros avait compris que les assaillants cherchaient à sécuriser une zone sur un flanc de son armée. Toujours trop tard, il avait vu Elsa ancrer l'ultime rune au centre du camp et déclencher son terrible sortilège. Juste à temps, les jumelles avaient réussi à protéger leur général chéri. Des milliers de pauvres types n'avaient pas eu la même chance. Même après ce désastre, les troupes d'Outros restaient nombreuses et puissantes. Et ces hommes, enragés, piaffaient d'impatience de venger leurs camarades. Ils brûlaient d'envie de conquérir et de piller, et leur chef les conduirait à la victoire, comme il l'avait promis à Kourgan, tant pis si celui-ci était mort depuis des lustres. En toute fin d'après-midi d'une journée pourrie, Outros rectifia la position du masque d'or qui cachait une moitié de son visage. Sur son casque, il arborait les cornes d'un taureau géant, un monstre d'Ildakar qu'il avait tué de ses mains. Le général se tenait devant le pavillon érigé par ses soldats pour remplacer son quartier général dévasté par les flammes. La toile rapiécée était de toutes les couleurs et des troncs d'arbres noircis tenaient lieu de poteaux. Mais Outros se fichait des signes extérieurs de puissance que Croc de Fer aurait exigé. Sa tente était un bon abri et il ne demandait rien de plus. Tandis qu'il humait l'air, inhalant des cendres, Ava et Ruva massaient ses avant-bras musclés au-dessus de ses larges bracelets de force.
« Général chéri, » dit Ava, « nous sommes prêts à recevoir le roi des Norokai. »«
Et à conquérir le monde, » ajouta Ruva.
Dans leurs robes bleues, les deux magiciennes rigoureusement identiques étaient belles à se damner. Tout le corps rasé jusqu'au dernier poil ou cheveux, elles peignaient sur leur peau des motifs géométriques qui évoquaient des runes. Leurs pigments multicolores délaissés, elles utilisaient désormais de la suie et du sang séché, un mélange plus puissant que de la simple peinture.
« La taille de notre armée impressionnera nos nouveaux alliés, » dit Ava.
« Mais sur le plan de l'hospitalité, nous serons au-dessous de tout. »«
Impossible d'offrir un festin au roi calvaire, » se lamenta Ruva.
Outros serra très fort les dents. « S'il n'y avait eu que ça !» En réalité, leur situation était critique. Depuis la disparition d'Ildakar, plus question de piller ses fabuleuses réserves. Et sans ce butin, comment survivre?
Outros fixa l'endroit où l'extrémité surélevée de la plaine, naguère le site d'Ildakar, dominait un apic vertigineux. Le fleuve Chasse-Corbeau coulait au pied de cette falaise et des marécages s'étendaient au-delà.
« Le roi calvaire nous apporte des provisions. Pour un temps, ça suffira. »«
Si le gardien le veut bien. » pensa Outros, peu convaincu lui-même par ses propres fantaisies.
Là où se trouvait naguère Ildakar, une horde de Norokai déferlait comme si elle avait l'intention de conquérir la vallée. En réalité, c'était une délégation qui venait parlementer, les autres pillards attendant dans les galères à l'arrêt sur le fleuve. Vêtus de peaux de requin ou de serpent, les esclavagistes étaient couverts de hideux tatouages. Même de loin, Outros reconnut Calvaire, toujours flanqué de Crayeux, son chaman albinos à demi-fou. Derrière l'improbable duo, des esclaves avançaient, les bras lestés de sacs, de barriques ou de caisses. Largement de quoi nourrir une petite armée. Manque de chance, Outros en avait une très grande, et ses hommes, libérés du sort de pétrification, crevaient de faim. Après la disparition de la cité, les derniers vestiges du sortilège s'étaient dissipés en un éclair. Comme par miracle, les soldats avaient retrouvé toute leur humanité faite de chair, de sang, d'os et d'appétit. De quoi se réjouir au premier abord. Sauf que la vulnérabilité était revenue en même temps que l'humanité. Encore à demi pétrifiés, les hommes n'avaient eu ni faim ni soif. Désormais, les besoins naturels des êtres vivants les tenaillaient. Des dizaines de milliers de bouches à nourrir. Tout ça dans une vallée isolée, sans ville proche à piller, ni convoi de ravitaillement à attendre. Le second du général, Enoch, rejoignit son chef et lui fit son rapport d'un ton sinistre. Faisant signe à l'intendant général, Outros l'invita à participer à la conversation. Après avoir salué les deux officiers, le vétéran évalua les vivres qu'apportaient les Norukai. Un seul regard lui suffit pour se faire une opinion.
« Il y a de quoi nourrir les officiers et les sous-officiers jusqu'au sergent. Il faudra se rationner rigoureusement, cela dit. En d'autres termes, les soldats n'auront rien. »
marmonna Outros. Suivi par six capitaines, Calvert et Crayeux se dirigeaient vers le pavillon. Quand ils furent arrivés, le roi salua Outros en claquant des mâchoires. Sur ses joues fendues puis recousues pour lui donner des allures de reptile, des tatouages imitaient les écailles du dieu serpent. Le torse de Calvert était énorme, comme s'il avait deux poumons supplémentaires afin de pouvoir s'immerger assez longtemps pour combattre des requins. Des implants osseux saillant sur ses épaules, il portait une chaîne de fer en guise de ceinture.
« Nous apportons de la nourriture, comme vous l'avez demandé. Festoyons pour célébrer notre pacte. »
Calvert ordonna aux esclaves de déposer leur fardeau devant le pavillon où des feux de cuisson crépitaient déjà.
« Mes chasseurs ont abattu trois cerfs dans les collines, » annonça Outros. « Nous les retirons en plus du poisson. »« Au diable le poisson !»
s'écria Calvert.
« J'en ai plus qu'assez. Moi, je prendrai la viande. »
« Poisson, poisson, poisson !»
couina Crayeux.
« Sucez les arêtes et mâchouillez les têtes. J'adore voir les gros yeux giclés de leurs orbites !»
Tout en sautant d'un pied sur l'autre, le chaman plia les bras selon des angles très étranges.
« Roi Calvert, pour eux tous, ce sera un calvaire !»
En guise de vêtements, l'avorton portait un pagne en peau de poisson cousu. À croire qu'il voulait exposer sa chair blafarde couverte de petites morsures, des centaines, peut-être même des milliers. Avec ses lèvres à moitié dévorées, on ne faisait plus la différence entre ses sourires et ses rictus. Ava et Rouva observaient le chaman sans cacher leur répugnance. De conserve, elles pointèrent le menton, dédaigneuses, histoire de bien manifester leur sentiment de supériorité.
« Aujourd'hui, » dit Outros de son ton le plus diplomatique, « il y a bien plus important que les festins. »
D'un geste, il invita ses visiteurs à s'asseoir avec lui à une table devant le pavillon. S'il n'avait pas eu besoin des galères et des troupes de Calvert, il lui aurait volontiers botté les fesses.
« Ce soir, nous devons planifier notre campagne, roi Calvert. Mon armée ne peut pas rester ici ou elle crèverait de faim. Le nombre est un handicap en ce qui concerne la mobilité. Je le concède volontiers, mais nous sommes invincibles. » « Aucune ville ni aucun pays ne nous résistera. »
Calvert éclata de rire.
« Tu veux parler des villes et des pays que les Norokai te laisseront ?»«
L'ancien monde est à nous, »
fit Outros, glacial.
« À nous deux, ouais. C'est bien ce que je voulais dire. »
Outros ne se laissa pas démonter.
« Ensemble, nous allons définir une stratégie. Pas question de déferler bêtement sur le continent. » L'objectif est de conquérir, puis de conserver. »
Le roi ne dissimula pas son impatience.
« Si tu veux. Mais je n'ai rien contre déferler et saccager pour le plaisir. J'ai besoin de bouger un peu. »
Alors que les jumelles étudiaient attentivement Calvert et Crayeux, le roi leur lança des œillades assassines, mais elles n'entrèrent pas dans son jeu. Outros ne s'inquiéta pas, parce qu'elles étaient assez grandes pour se défendre. Pour elle, tuer un importun était un jeu d'enfant. Tandis que les cerfs tournaient en broche et qu'on grillait le poisson, Enoch se chargeait de la distribution des rations. En tirant bien, ça remplirait pas mal d'estomac. Pour un soir. Plus tard dans la soirée, alors qu'il finissait de ronger un os, Calvert désigna les caisses, les barriques et les sacs qui se vidaient à vue d'œil.
« C'est tout ce qui nous restait sur les galères, »
dit-il, comme si ça n'avait aucune importance.
« Vous vous en faites trop pour la bouffe, vous autres !»
Un ton presque méprisant.
« Mes hommes doivent se nourrir !» dit Outros. « Gérer les réserves, c'est un casse-tête pour moi !»«
Tes soldats sont des mauviettes, s'il en est ainsi !»
Le roi glissa deux doigts dans son énorme bouche et délogea un morceau de viande coincé entre deux molaires.
« Nous, on se fiche des réserves. Pour se ravitailler, on pille, puis on lève le camp. »
« Un calvaire pour tous les autres !»
couina Crayeux.
Nous allons devoir vous imiter,
concéda Outros. Sauf que les collines et la plaine offraient fort peu de ressources. Se penchant en avant, Calvert étudia le demi-masque d'Outros.
J'en veux un comme ça. J'aime bien l'air que ça te donne, général.
Outros retira la pièce d'or pour dévoiler sa chair dévastée. La plaie guérie, on distinguait clairement le muscle noir et durci.
Ce n'est pas un choix. J'ai dû m'y plier. C'était nécessaire.
Le Norokai approuva du chef et passa un doigt sur les longues cicatrices de ses joues.
Parfois, il faut faire ce qui s'impose.
Il posa les coudes sur la table.
J'écoute ton plan pour conquérir le monde.
Outros laissa errer son regard sur le camp.
J'ai des dizaines de milliers d'hommes parfaitement équipés et prêts au combat. Après vos mésaventures sur le fleuve gelé, il te reste des galères intactes?
Crayeux se tortilla sur son siège.
Navires et poissons, glace et feu, grande galère à tête de serpent, galère géante, toutes cassées maintenant.
Mais non, idiot, pas cassées!
Calvert flanqua un furieux coup d'épaule à son chaman, mais il se fit pardonner en l'enlaçant et en le serrant contre lui. Puis, il se tourna vers Outros.
Quand le fleuve a gelé, une centaine de galères étaient arrimées au quai ou en attente un peu plus loin. L'idée, c'était d'escalader la falaise pour envahir l'île Dakar. La glace a brisé quelques coques, bien entendu.
Calvert tapa sur la table, ses phalanges renforcées de fer produisant un boucan d'enfer.
Mais nous les réparons! Les Norokai sont de grands constructeurs de navires!
Calvert regarda derrière lui, là où se trouvait la pique.
Dans les marécages, nous trouverons tout le bois nécessaire, et nous ne manquons ni d'outils ni d'esclaves. Tant mieux, parce que nous aurons besoin de tes galères, et de tes guerriers aussi, bien entendu. Si j'ai tout compris, d'autres bateaux attendent dans tes îles. Il nous les faudra tous, ainsi que tes guerriers et la totalité de mes forces. Pour atteindre la mer, tes galères seront bien plus rapides. Même à marche forcée, mes soldats mettront plus longtemps à rejoindre la côte. Plusieurs galères sont déjà réparées, ou presque, et j'ai hâte de repasser à l'action. Je vais repartir pour nos îles, où une centaine d'autres navires doivent être prêts à appareiller. Mes guerriers sont avides de victoire et de butin. En attendant tes hommes, nous attaquerons les villes côtières. Un cyclone d'acier et de sang.
Dans son esprit rompu à la stratégie, Outros visualisa le déroulement des opérations.
Si le Norokai attaque la côte pendant que nous avançons à l'intérieur des terres, nous prendrons l'ancien monde en tenaille.
Calvert brisa avec ses dents l'os dont il avait arraché toute la viande.
Une fois la jonction faite, continua Outros, nous fondrons sur Tanimura et Alturang, puis ce sera le tour du nouveau monde.
Le roi Calvert!
Hurla Crayeux.
Pour tous, ce sera un calvaire.
Oui, un calvaire pour tous,
approuva Outros. Les Norokai n'étaient guère amateurs de conversations mondaines. Le festin achevé, ils se montrèrent pressés de rejoindre leur galère. Comme le général, ils avaient voulu conquérir Ildakar. La ville leur ayant faussé compagnie, les deux armées n'avaient plus aucune raison de s'attarder sur le site. Calvert partit satisfait, comme si les deux chefs avaient pour de bon planifié toute la guerre. À l'évidence, dut constater Outros, les Norokai ne faisaient pas grand cas de la préparation. Ils attaquaient, se servaient, puis repartaient quand ça leur chantait. En matière de dirigeant, Calvert était encore pire que Croc de Fer, si c'était possible. Mais on lui réglerait son compte plus tard. Avant, Outros utiliserait les pillards pour atteindre ses objectifs. Par loyauté envers son empereur et au nom de sa passion secrète pour Magel, il avait juré de briser l'échine de tout un continent. Ses motivations désormais obsolètes, il allait devoir agir en son propre nom et ne se soucier que de lui. Quand les affreux Norokai eurent disparu, jouant les acrobates le long de la falaise, Enoch approcha de son chef la mine sombre.
« Toute la nourriture a été distribuée, général, et ça ne représente pas grand-chose. » « Je lui attendais, » fit Outros. « Le roi des Norokai ne dit pas des âneries. Ces derniers jours, nos éclaireurs ont repéré des campements et des villages. À nous de les piller selon les règles de l'art. Envoie des maraudeurs dans toutes les directions, partout, qu'ils prennent jusqu'au dernier crouton de pain.
C'est notre seul espoir de survivre.